aussi les chants, quelques prières, rejoignez ce message que j'aimerais partager avec vous sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. De voir ensemble la doctrine de la grâce, bon, pas toute la doctrine, mais des éléments de doctrine de la grâce de Dieu. Et ensuite, nous verrons peut-être des leçons ou des applications que nous pourrions tirer de cette doctrine de la grâce de Dieu. D'abord, peut-être pour mieux comprendre en quel temps nous sommes, de prendre comme illustration ce qui nous est particulier dans l'histoire de notre pays, c'est la Révolution française. La Révolution française a marqué un tournant dans l'histoire de la France. Et à tel point que les historiens ont appelé la période qui précédait cette révolution l'Ancien Régime. L'Ancien Régime. Comme pour vraiment montrer que ça a été un tournant révolutionnaire, c'est le cas de le dire, au point que ce qui était avant a pris un gros coup de vieux, c'est devenu ancien, c'est l'Ancien Régime. Bon, on peut être mitigé sur notre histoire, les effets de la Révolution, mais en tout cas on peut dire que quand Jésus-Christ est venu, il est venu avec quelque chose de tout à fait nouveau. Il est venu instaurer le régime de la grâce. Avant lui, c'est ce qui était ancien. Depuis qu'il est venu, le nouveau est là. Hein? Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, plus littéralement, voici, le nouveau est là. Nous sommes dans le nouveau que Jésus-Christ est venu apporter. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc il y a eu un changement de gouvernance ou de gouvernement. Aujourd'hui, ce qui gouverne les croyants, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est plus la loi, mais la grâce de Dieu. Il y a eu un changement de régime, un changement de gouvernance. Nous ne devons plus avant tout obéir au code de la loi de Moïse, mais à la foi et aux exigences de la foi en Jésus-Christ. Alors on va lire dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, versets 21 à 28. Romains, chapitre 3, versets 21. C'est unique à l'Église, au christianisme, aucune autre religion sur la terre. Et il y en a beaucoup des religions, énormément. Il y a les plus connues, les monothéistes, mais il y en a énormément. Il y a des centaines de religions sur la terre. Aucune ne nous parle de ce règne de la grâce de Dieu. Alléluia. C'est vraiment une spécificité chrétienne. C'est Jésus-Christ qui est venu apporter cette grâce. Romains chapitre 3, versets 21 à 28. Et cela rejoindra aussi une prière que nous avons entendue. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. C'est-à-dire que l'Ancien Testament est toujours valable. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Alors, dans le contexte de l'Épître aux Romains, ça veut dire juif et non-juif. Il n'y a pas de distinction. C'est pareil pour tout le monde. Verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Ça veut dire que tous les flots et les hectolitres de sang qui ont été versés par les animaux n'ont jamais vraiment suffi pour punir le péché. Pendant tout le temps de l'Ancien Testament, la justice n'avait pas été faite. Les péchés étaient laissés impunis. Au temps de sa patience, c'est le temps de cet Ancien Testament où Dieu patientait jusqu'à ce que Jésus vienne. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Amen. Alléluia. Alors reprenons dans ce passage ce qui est dit de la doctrine de la grâce. D'abord, la grâce repose sur le constat de notre échec. Et cela rejoint une prière qui nous avons entendue. Dieu ne nous a pas menti quand on a entendu l'évangile. Il nous a dit que nous étions des pécheurs. Nous sommes tous mauvais. La grâce de Dieu repose sur ce constat déplaisant, terrible, mais qui nous concerne tous. Il n'y a aucune personne ce matin qui est une bonne personne. Dieu seul est bon, à lui la gloire. Nous, nous sommes mauvais. Et tout le genre humain, c'est la démonstration de l'apôtre Paul dans les trois premiers chapitres de cette épître, tout le genre humain est pécheur, juif, non-juif, tout le monde, nous sommes condamnés par la loi. Ah, je crois que le chrétien se distingue de toutes les autres personnes et même de tous les autres religieux par cette humiliation qu'il a connue et que nous vivons dans l'humilité aujourd'hui. Nous savons que dans notre cœur, il y a de mauvaises choses. Paul dit, alors qu'il est apôtre, qu'il est chrétien depuis de nombreuses années, « Le bien n'habite pas en moi, c'est le péché qui habite en moi. » Alors, la grâce de Dieu repose sur cela. Et continuer de vivre dans la grâce en tant que chrétien, c'est de ne jamais oublier cela. L'apôtre Paul dira « Je suis le premier des pécheurs. » On aurait envie de lui dire « Mais non, plus maintenant !» Quand tu étais persécuteur, meurtrier, peut-être, mais plus maintenant, tu as fondé de nombreuses églises, tu as dans ton ministère vécu tant de miracles, mais il dit « Je suis le premier des pécheurs. » Paul est resté toujours pécheur dans la conscience qu'il avait de lui-même. Amen. La grâce de Dieu repose sur cette vérité. Sans sa grâce, s'il nous retirait sa grâce ce matin, nous serions les plus misérables et nous referions ce que nous faisions auparavant. Amen. Nous avons tous péché et été privés de la gloire de Dieu. La deuxième chose dans ce passage, c'est que la grâce, c'est la gratuité. Mais nous avons été gratuitement justifiés, le verset 24. La grâce, c'est la gratuité. Amen. Le salut est gratuit. Il a coûté très cher à Dieu, son propre Fils. Mais le salut, il est gratuit. C'est ça la grâce de Dieu. C'est quelque chose qui n'est pas mérité, qui n'est pas monnayé. Et en tant que chrétiens, nous devons réaliser que tout ce que nous pouvons vivre, tout le changement que le Seigneur fait dans notre vie n'est pas une monnaie d'échange pour son pardon. Mais c'est sa grâce qui fait ces choses dans nos vies. Alléluia. Et c'est toujours aujourd'hui, gratuitement, que Dieu nous justifie. Nous ne sommes pas plus justifiés aujourd'hui parce que depuis notre conversion, il y a des choses qui se sont améliorées dans notre vie. Notre justification ne repose pas sur notre sanctification. C'est le contraire. Notre sanctification repose sur notre justification. Nous ne sommes pas aujourd'hui justifiés parce qu'on est des bons chrétiens. Nous sommes justifiés gratuitement parce que Dieu nous aime et nous fait grâce. Grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Donc peut-être pourriez-vous dire ce matin, ouais, de toute façon, moi je ne suis pas un très bon chrétien. Ben ça tombe bien, parce que tu sois un bon chrétien ou un pas bon chrétien, je ne sais pas si ça existe. En fait, les deux sont justifiés par la même grâce. Alléluia. Et justement, commencer à se dire, mais moi je ne suis pas un assez bon chrétien pour venir à l'église, pour prier, ou c'est ne pas comprendre la justification suffisamment. Nous ne sommes pas justifiés sur la base des œuvres, mais de la foi. Alléluia. Et pas, alors là aussi on peut faire de la foi une œuvre et de dire, mais moi je ne crois pas assez, on ne s'en sort plus. On peut avoir le mécanisme, le fonctionnement, la mentalité des œuvres en parlant de la foi. Mais vous savez, si vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est suffisant pour être justifié. Alléluia. Dieu soit béni. Troisièmement, la grâce, c'est la justice. Et ça, c'est fondamental. Je pense qu'il y a un déséquilibre moderne dans la vision et la doctrine de la croix actuellement. On parle beaucoup de la croix comme la preuve d'amour. Mais on ne parle pratiquement que de cela. Et c'est un grand tort. À la croix, c'est une preuve de justice. Le Fils de Dieu a été défiguré par le châtiment qui est tombé sur lui. Parce que Dieu a jugé le péché à la croix. Il a été fait justice à la croix. Dieu ne nous a pas seulement aimés à la croix. Dieu a puni le mal, nos péchés, dans le corps de son Fils. La croix, c'est justice qui est faite. Et Paul ose aller jusque dire que toute la période d'avant, sous l'Ancien Régime, le régime de la loi, les péchés étaient restés impunis. Ben, c'est une évidence, en fait, quand on y réfléchit. Parce que l'Épître aux Hébreux nous l'explique, mais jamais de la vie, le sang des boucs, des taureaux ou des animaux ne pourrait ôter le péché, jamais. C'était des sacrifices en l'attente de l'agneau de Dieu qui, lui, ôte le péché du monde. Jamais le péché n'a été ôté avant que Jésus ne vienne. Jamais. Et il n'y a que son sang qui efface, qui ôte le péché du monde. Et quand Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », on pourrait paraphraser comme cela. « Voici enfin, après tous ces millions et millions d'animaux sacrifiés, seulement pour faire patienter Dieu, voici enfin l'agneau qui règle le problème définitivement du péché, qui va l'ôter. » Oui, la justice est à la croix. Alléluia. La justice pleine et entière est à la croix. Alors, c'est la grâce, c'est aussi la foi. Parce que dans le déroulement de cet argument du chapitre, ben, Paul dit, comment ? Par la loi des œuvres ? Non, mais au verset 27, par la loi de la foi. Alors ça, c'est fondamental. Il y avait un vieux cantique qui dit « par la loi de la foi », je ne sais plus exactement les paroles. La loi, ça veut dire le principe. La loi de la foi ou la loi des œuvres, c'est le principe des œuvres ou le principe de la foi. Nous devons changer de logiciel, de mode de fonctionnement. Paul dit « comment ça fonctionne la grâce ?» Par le principe de la foi, par la loi de la foi. C'est comme en mathématiques, il y a des lois mathématiques, il y a des lois physiques. Eh bien ici, Paul nous parle de loi spirituelle. Est-ce qu'on est dans, spirituellement dans la loi des œuvres ? Non. On est dans la loi de la foi. Dans le principe de la foi. Vous savez, ce n'est pas seulement lié à la loi de Moïse. Toutes les religions fonctionnent sur le principe des œuvres. Toutes. Parce qu'il me semble que c'est en fait humain de fonctionner comme ça. D'une façon innée, nous pensons que pour plaire à Dieu, il faut le mériter et suer des gouttes. J'étais athée, mais vraiment athée. Et quand on m'a témoigné du Seigneur, bon, je n'ai rien entendu du tout, je n'appréciais pas, mais des mois plus tard, l'Esprit m'a visité dans ma chambre. Au point que j'aille toquer à la porte de ce chrétien que je ne voyais plus parce qu'on s'était séparés dans notre orientation scolaire. Et tout de suite, je lui ai dit, il faut que je vienne à ton église, il faut que je jeûne pour Dieu. Vous voyez, dès le départ, je pensais qu'il fallait faire quelque chose pour obtenir. Pourtant, j'étais athée, je détestais la religion. Mais c'est dans l'homme. L'homme veut mériter, faire. Et quand Jésus dit l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Alors là, ça nous prend à contre-pied. Ce n'est pas notre habitude, ce n'est pas notre réflexe. Ce qui doit guider notre vie, ce ne sont pas nos œuvres, mais c'est la foi qui produit des œuvres. Nos œuvres doivent découler de la foi, d'une vie confiante en Dieu, d'une relation rétablie avec Dieu. Parce que qu'est-ce que c'est le principe de la foi? Le principe de la foi, c'est vraiment de comprendre que Dieu n'est plus contre nous, nous avons la paix avec Dieu au moyen de la foi, que nous sommes vraiment justifiés, aimés, et que dans ce contexte de vie réconciliée, alors Dieu va nous aider, on peut lui faire confiance, s'attendre à lui, nous changer et produire lui-même des œuvres nouvelles. Ça, c'est vivre dans le nouveau. Mais un chrétien qui dit, Seigneur, tu as tant fait pour moi, maintenant moi, je vais faire pour toi, il ne vit pas dans la grâce de Dieu. Il vit dans le principe des œuvres. Nous n'arriverons jamais à rendre à Dieu ce qu'il a fait pour nous. Jamais. Si nous voulons vraiment changer, il faut que dans la foi, Dieu nous change. Amen. Le principe de la foi, elle introduit la foi une nouvelle façon, la grâce, pardon, elle introduit une nouvelle façon de fonctionner la foi. Et enfin, dans ce passage, la grâce favorise l'humilité. Parce que, voilà, Paul dit, où est donc le sujet de se glorifier? Ben, il est exclu, c'est impensable. C'est impensable. Et c'est pour ça, je pense, que l'être humain, et d'ailleurs les pharisiens, les juifs religieux qui aimaient Dieu, qui connaissaient Dieu, ont buté sur cet obstacle de la proposition de suivre Dieu par la foi. Ça a été pour eux un achoppement, comme pour nous tous. Parce qu'en réalité, ça nous humilie la foi. C'est si on comprend qu'il faut vivre dans la foi et dans cette foi que Dieu produise des œuvres dans nos vies, alors effectivement, il n'y a pas de quoi être fier de nous. Mais seulement d'être fier de Dieu. Alléluia. De glorifier Dieu et puis de se glorifier soi-même. Et je pense que c'est la raison profonde pour laquelle l'être humain et nous tous avons tendance à préférer plutôt suer que de croire. Parce qu'au moins quand on sue, on mérite. C'est le fruit de notre travail. Mais quand on vit dans la grâce de Dieu, alors on reste dans ce positionnement du pécheur qui ne peut que s'attendre au Seigneur pour que sa vie change à la gloire de son nom. Et là, c'est vraiment renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même, ça va jusqu'à renoncer à essayer de devenir meilleur par soi-même. Mais nous ne pourrons être rendus meilleurs que en Jésus-Christ. Jamais en nous-mêmes, mais en Jésus-Christ. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire, qu'on n'a pas une participation, mais c'est dans le cadre de cette vie de foi, c'est sur le terrain de la grâce. Alléluia. Lisons maintenant au chapitre 5, verset 20 de l'Épître aux Romains, s'il vous plaît. Romains, chapitre 5, verset 20. Et on lira aussi le premier verset du chapitre suivant. Romains 5, 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort depuis Adam, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là. Puis il continue son développement, mais je ne peux pas tout lire. Alors, pourquoi lire ce passage ? On entend souvent ce texte cité, « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé ». Bien souvent pour étayer des témoignages de grands délinquants qui ont fait les 400 coups. Et la conclusion, c'est que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je ne dis pas qu'on ne peut pas, en dernière application, dire ces choses. Ce que je dis, c'est que ce texte ne parle pas de cela avant tout. Quelle est la prolifération du péché dans ce passage? Quelle est l'abondance du péché? Eh bien, revenons au verset 20. La loi est intervenue pour multiplier l'offense, pour faire abonder le péché. Donc, ce n'est pas l'abondance du péché ici, une vie pleine de péchés. C'est la loi qui fait abonder le péché dans la conscience de quelqu'un. C'est de cela dont il est question. Parce que plus on va connaître la loi, plus on va être, en d'autres termes, être éclairé par Dieu, plus sa lumière va nous montrer nos péchés. Plus il va avoir ce mécanisme où la loi va travailler pour faire abonder le péché. Parce que même si au jour d'aujourd'hui, vous faites rien de plus grave que ce que vous faites d'habitude. Rien que ce que nous sommes et ce que nous faisons d'habitude. Mais si Dieu nous éclairait, vraiment, nous serions surpris. Surpris de l'abondance de nos péchés. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, et d'une façon générale dans toutes ses épîtres, explique que la loi n'a jamais été donnée pour nous délivrer du péché. Elle a été donnée, au contraire, pour nous montrer, nous donner la connaissance du péché et le faire même abonder, pour nous amener au désespoir. La loi désespère pour que dans notre désespoir, nous aspirions au Sauveur. La loi a été comme une pédagogie pour nous amener à Jésus-Christ. Alléluia. Dieu soit béni. Et quand nous sommes chrétiens, parfois, il faut que nous fassions attention. Qu'est-ce que c'est que de vivre dans la grâce quand on est chrétien? C'est au fur et à mesure que la lumière de Dieu nous éclaire. Peut-être ces derniers temps, quelques chrétiens sont remis en cause dans leur cœur, découvrent des choses dans leur vie, s'étonnent. Je ne pensais pas que j'étais comme ça. Je ne pensais pas que j'étais capable de dire ça. Je suis surpris, je viens à l'église, j'ai plus envie de louer Dieu. Je n'aime plus Dieu vraiment, comme avant. Bien d'autres situations, peut-être à votre lieu de travail, vous y rencontrez des difficultés qui révèlent des péchés dans votre vie, dans votre cœur. Eh oui, mais quand ces choses remontent à la surface, vous savez, je suis convaincu d'une chose. Notre cœur, c'est un puits profond. D'ailleurs, les proverbes le disent. Notre cœur, c'est un puits profond. Et on ne sait pas ce qu'il y a au fond. Mais quand Dieu fait remonter ce qu'il y a au fond, on est choqué. Dieu n'est pas choqué. Nous, même, on se dit, « Oh Seigneur, c'est grave comme si lui le découvre. » il nous le montre, ce qu'il savait depuis toujours. Et quand justement Dieu nous éclaire, quand le péché abonde, il faut toujours que la grâce surabonde. Amen. C'est ça le règne de la grâce. C'est ça le régime de la grâce. Le régime de la grâce, c'est que la grâce doit toujours avoir un coup d'avance. Alléluia. C'est que à chaque fois que Dieu nous humilie, que Dieu nous révèle le péché, comme au premier jour de notre conversion, comme une prière a été dite, quand Dieu ne nous a pas menti, Dieu nous a dit ce que nous étions. Mais vous croyez qu'il ne le dira que le premier jour de notre conversion? Vous croyez qu'il ne nous dira la vérité qu'au début de notre marche chrétienne? Vous vous trompez. Dieu continuera de nous dire la vérité tout au long de notre vie chrétienne sur ce que nous sommes. Et tout au long de notre vie chrétienne, la seule solution que nous aurons, c'est d'avoir le même réflexe de nous réfugier dans la grâce de Dieu. Alléluia. Il faut que la grâce règne dans nos vies, c'est-à-dire qu'elle surabonde quand nos péchés abondent. Et vous comprenez quand je dis ça, je ne veux pas dire que vous allez faire des choses terribles, mais il y en a déjà des terribles. Et quand Dieu nous les révèle, quand ces péchés abondent, la grâce surabonde toujours en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Vous savez, pendant des années, sans que je m'en rende compte, et je sais que dans toutes les églises, bien des chrétiens sont comme ça, sans s'en rendre compte. Pendant des années, sans m'en rendre compte, j'essayais de minimiser ce que j'étais pour que ce ne soit pas trop grave aux yeux de Dieu. Mais ce n'est pas ça la grâce. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce nous permet de ne plus minimiser. Mais la grâce nous permet de dire, je suis cet homme-là. Vous vous rappelez, c'est David qui dit ça, quand il est surpris. Et pourtant, il aime la justice. Il lui raconte, Nathan, cette histoire d'un homme qui un pauvre. Il vit avec sa brebis. C'est sa vie, sa brebis. Puis un riche vient, il lui prend. C'est terrible. David, un roi juste, dit, celui-là, je coupe la tête. Cet homme mérite la mort. Et Nathan, boum, tu es cet homme-là. Terrible, ça. On est bizarre, hein. On est à la fois très juste pour les autres. On pense être très juste pour soi, mais en réalité, on laisse passer beaucoup de choses dans nos vies que Dieu sait et que Dieu connaît. Mais il nous parle et il nous révèle. Mais jamais pour nous condamner, jamais pour nous détruire. Toujours pour nous sauver. Et toujours pour que nous puissions de plus en plus capitaliser la grâce. Alléluia. Je crois qu'avec les années de vie chrétienne, on peut vraiment tous dire grâce sur grâce. Amen. On a tellement fait d'erreurs depuis notre baptême d'eau. Mais à chaque fois, Dieu nous a pardonnés. À chaque fois, Dieu nous a changés. À chaque fois, Dieu nous a défendus par son Fils. À chaque fois, Dieu nous a justifiés. Oui, là où le péché abonde, la grâce surabonde en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, oui, je sais, la grâce est déstabilisante. Elle est déconcertante. Parce qu'on disait de Paul qu'il enseignait que, de toute façon, justifié, on peut faire ce qu'on veut. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Et c'est vrai que quand on parle de l'évangile dans la rue, les gens nous répondent ceci, c'est trop facile. Alors on peut faire n'importe quoi, il suffit de demander pardon. Les gens disent ça. C'est trop facile alors, on peut faire n'importe quoi, il suffit de demander pardon. Moi souvent déjà je leur dis, c'est déjà pas si facile que ça de demander pardon. Parce que s'humilier, reconnaître ses péchés devant Dieu, c'est loin d'être aussi facile. Mais, deuxièmement, ce n'est pas du tout ce qu'enseigne l'Évangile. Ce n'est pas parce qu'on est justifié que c'est une liberté pour vivre n'importe comment. La justification nous amène à la sanctification. Alors pour terminer, parce que sinon ce serait trop long, on va lire verset 14 du chapitre 6, s'il vous plaît quand même, ce verset est important. Verset 14, car le péché, n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, ou le régime de la loi, mais sous la grâce. Amen. Ce verset déclare avec force que si la loi a échoué, la grâce marche, elle fonctionne toujours. Quand j'ai lu ça, il y a très longtemps, je me souviens, j'étais jeune, je ne suis pas vieux, mais j'ai été plus jeune, on va dire. Quand j'ai lu ce verset, ça m'a frappé, parce que je me suis dit, ben, ce n'est pas ce que je pense. Je pensais autrefois que plus on est sévère, plus on est exigeant, plus ça marche. Des parents pensent ça parfois pour leurs enfants. Ils sont exigeants et sévères en disant, ben, plus je vais demander, plus je vais obtenir. Et on fonctionne un peu comme ça. Mais ici, Dieu nous dit, la loi, ça n'a pas marché. C'est la grâce qui nous délivre. Alléluia. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous sous la grâce. Non sous la loi, mais sous la grâce. Ben, quand on a compris un petit peu ces mécanismes dont j'ai essayé de m'entretenir avec vous quelques instants, oui, c'est logique. En fait, la grâce de Dieu met en mouvement la puissance de Dieu. Que la loi met en mouvement la puissance de l'homme. Et entre la puissance de l'homme et la puissance de Dieu, il n'y a pas photo. La grâce de Dieu, c'est justement continuer de dire « Je suis pécheur, c'est toi qui me justifies et je te fais confiance pour que tu me changes. Je me laisse conduire par toi dans ma sanctification. » Nous, il ne faut pas croire qu'on est sauvé par la foi et sanctifié après par la loi. On est sauvé par la foi et sanctifié par la foi. Amen. Et bien sûr, alors la grâce est beaucoup plus puissante. Je résume, le schéma des Romains, c'est condamné, justifié, régénéré, sanctifié, glorifié. Alléluia. Alors passons maintenant à quelques applications, si vous voulez bien. Lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. 2 Corinthiens 12, 9. Verset 8, peut-être, on comprendra mieux. 2 Corinthiens 12, 8 et 9. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. » Alors une application, c'est que quand on commence à mieux comprendre et à mieux vivre dans le règne de la grâce, je crois que la grâce, c'est comme le Seigneur, le Seigneur peut régner dans nos vies, mais plus ou moins. La grâce et les principes qui découlent de la grâce, notamment celui de la foi, ben, cette grâce-là, elle peut plus ou moins régner notre existence, plus ou moins. Mais au plus on vit dans ce règne de la grâce, au plus on comprend que c'est bon d'avoir des faiblesses. Et là aussi, c'est pas humain. Et Paul réagit normalement. « Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi. Pour mon ministère, ça va être un problème. Délivre-moi. Trois fois. » Mais le Seigneur lui dit, « Écoute, toi qui es l'apôtre de la grâce, je vais t'expliquer quelque chose. C'est ma grâce qui fait l'œuvre, c'est pas toi. Et je vais te laisser avec ce problème. Comme ça, tu pourras jamais trop gonfler. Je vais te laisser avec ce problème, comme ça tu te rappelleras toujours que c'est pas toi, c'est la grâce, c'est ma grâce. » Eh oui, amen. Il dira, « Par la grâce de Dieu, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu. » Alléluia. Et vous savez, bien aimé, on oublie très vite la grâce de Dieu. Un petit peu de réussite par-ci, un petit peu de réussite par-là. Ouh, là, 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 là. Et il est bon, des fois, qu'on soit dans des moments difficiles. Quand Paul était en Grèce, c'était compliqué pour lui. Un juif de juif, Paul. Et en Grèce, c'est compliqué. Il dit, j'étais parmi vous dans un grand tremblement. Il était déboussolé en Grèce. Mais quelle œuvre puissante de Dieu à Corinthe, à Athènes aussi. Alléluia. Et Paul a dû apprendre, parce que lui au départ, il voulait prêcher à ses frères les juifs. Et il le dira, d'ailleurs dans l'épître aux Romains, j'ai une tristesse continuelle pour mes frères juifs. Donc lui, de base, quand il s'est converti, pour lui, j'étais élevé à Gamaliel, par Gamaliel, tout le monde sait que j'étais un ultra juif. Et, mon témoignage, c'est pour Israël. Mais Dieu dit non. On ne mesure pas le chemin que Paul a fait. On ne réalise pas ce qu'il a traversé. Et lui, qui se retrouve en Grèce, dans une mentalité païenne, complètement idolâtre et différente, plus d'une fois dans son ministère, il n'avait qu'une seule possibilité, c'était de crier à Dieu, fais grâce. Alléluia. Et je crois qu'il est bon que dans nos vies, nous ayons des moments où nous sommes déstabilisés, dépassés, où on se rend compte que non, à cause de nos faiblesses, de nos manquements, de nos limitations, c'est pas possible. Quand ce n'est pas possible, Dieu peut agir. Alléluia. Quand c'est possible, on l'empêche souvent d'agir, en agissant nous-mêmes. Alors, qu'il est bon de vivre dans cette grâce pour notre salut, mais aussi de vivre dans cette grâce pour le servir. De compter plus sur lui que sur nos compétences. C'est une première leçon. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen, amen. Notre application de ce règne de la grâce dans le salut, c'est aussi que la grâce en nous devrait sortir de nous. C'est ce que j'ai noté sur mon papier. Je le répète, la grâce en nous devrait sortir de nous. La grâce qu'on a compris dans notre cœur, dans notre salut, elle devrait sortir en grâce dans notre bouche et dans nos propos. Nous venons de le lire, cela. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais qu'il communique la grâce, une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Quand on vit dans la grâce, on fait grâce aux autres. Quand on réalise davantage que tous les jours Dieu me fait grâce, alors je fais grâce. Amen. La justification par la foi dans la grâce de Dieu ne peut pas être que en solo pour soi. Mais le règne de la grâce, c'est de nous faire devenir gracieux. Même si en français, c'est pas si gracieux que cela, mais de nous faire devenir gracieux. Le règne de la grâce dans notre assemblée, ce sera non seulement des chrétiens sûrs dans leur salut et heureux d'être justifiés et qui ne seront plus tourmentés par l'abondance de la loi parce que la surabondance de la grâce vous donnera à tous la paix. Ce n'est pas seulement cela, c'est aussi vivre cette grâce ensemble, les uns avec les autres. Dieu me justifie, me défend, je justifie, je défends. Dieu me fait grâce, je fais grâce. Dieu est bon pour moi, je suis bon pour les autres. Amen. Mais là, il faut le règne de la grâce, parce que là aussi, ce n'est pas naturel. Il faut une maturité dans la grâce, il faut une maturité dans la foi. Et oui, la grâce qui est en nous devrait sortir de nous. Alors, lisons un peu ce qui précède et ce qui suit rapidement. Verset 25. « C'est pourquoi renoncez aux mensonges, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. » Car nous sommes membres les uns des autres. Donc, ce n'est pas dire la vérité pour faire du mal, c'est dire la vérité pour être proches les uns des autres. Hein, ça. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Bon, on peut arrêter là, le verset suivant est intéressant aussi, mais je manque de temps. Avant cela, il y a la vérité. Et juste après, il y a bonne parole qui donne la grâce. C'est bien de lire des fois un corps de texte ensemble. Parce que dans l'Écriture, la vérité, oui, et la grâce aussi. Vous savez, je crois que dans nos assemblées, parfois, au nom de la vérité, on n'était plus dans la grâce. Mais on est retombé dans le mécanisme de la loi, et qu'est-ce qui caractérisait les Juifs qui étaient attachés à la loi? C'était les sectes entre eux. Hérodiens, Sadducéens, etc. La vérité sans la grâce, ça ne va pas faire du bien. Mais la vérité dans la bonne parole qui communique une grâce, ou qui précède, pour être plus juste par rapport au texte. Verset 29. Qu'il ne sorte, donc ça on l'a lu, verset 30 pour ceux qui suivent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté, parce qu'il y a plein de sortes de méchanceté qu'on peut faire, disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. C'est beau ça, alléluia. Traduction dit, soyez bons et compréhensifs. Donc, j'ai voulu lire à propos de ce verset qui parle de communiquer une grâce parce que la grâce en nous, elle sort dans notre bouche. J'ai voulu lire ce qui était avant, ce qui était après parce que c'est intéressant le contexte. Ce qui vient juste après, c'est d'attrister le Saint-Esprit. Et je pense que la grâce favorise le Saint-Esprit. C'est par la grâce que nous croyons, et parce que nous croyons, nous recevons le Saint-Esprit. Amen. C'est ce que Paul explique aux Galates. Est-ce par la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la foi? C'est par la foi. La foi, la grâce, ça va ensemble, favorise l'onction de l'Esprit. Mais ce n'est pas vrai seulement pour recevoir l'Esprit au début, c'est vrai tout au long de la vie chrétienne. Si nous vivons dans le règne de la grâce, nous favoriserons la plénitude du Saint-Esprit. Et si nous allons plutôt à contrario de cette grâce, en ayant des paroles qui ne soient pas des paroles de grâce, mais dures ou méchantes, blessantes, que sais-je, offensantes, que sais-je, si nous allons dans cela, le Saint-Esprit va être attristé. Le Saint-Esprit sera attristé dans votre vie. Mais je pense même que parfois le Saint-Esprit peut être attristé dans l'Église. Et nous ne voulons pas attrister le Saint-Esprit. Amen. On ne peut pas dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit et ne pas avoir, et avoir des paroles dures pour les autres. Il faut être dans la grâce pour que le Seigneur renvoie son esprit. Alléluia. Ce sont des mécanismes spirituels, des réalités profondes que nous ne mesurons pas dans notre vie de tous les jours, dans notre façon d'être chrétien. Alors, soyons compréhensifs, indulgents. Essayons de comprendre le point de vue de l'autre. Ça, c'est une atmosphère de grâce. Amen. Ce serait bien que la grâce du salut donne dans l'Église et dans nos maisons l'atmosphère de la grâce. Là, ce sont mes mots, pardonnez-les. L'atmosphère de la grâce. Et là, ben c'est. Alors, j'ai noté comprendre le point de vue de l'autre, ça, c'est pas naturel non plus. Ce qui est charnel, c'est j'ai mon point de vue, je l'impose. Ce qui est vraiment spirituel, c'est bon, là, franchement, je comprends pas. Mais allez, on essaye. On se met à la place de l'autre et on essaye de voir comme il voit. C'est l'amour aussi, ça. Amen. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Je n'ai pas le temps, mais dans Colossiens 3:13, il est dit « Pardonnez-vous », et en fait, littéralement, c'est plutôt « Faites-vous grâce les uns les autres ». Le péché, dans la Bible, c'est une dette. C'est une dette. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, j'ai connu, enfant, des moments de pauvreté. Je ne sais pas si ça vous est pas arrivé, ce que je vais vous dire ne vous parlera pas. Mais quand on est pauvre et qu'on doit de l'argent à des gens, ça va pas bien dans notre tête. Et d'ailleurs, j'ai été marqué pendant très longtemps par ça. Il y a des gens, d'ailleurs, qui ont beaucoup d'argent de côté parce qu'ils ont connu la pauvreté dans leur enfance. Ça les a tellement marqués qu'il faut à tout prix avoir beaucoup d'argent de côté. Quand on a des dettes, parce qu'on est pauvre, ça nous fait du mal. Dans notre psychologie, ça nous fait du mal. Et si on croise les gens à qui on doit de l'argent, on baisse la tête. On est soumis à eux, mais dans un mauvais sens soumis. On est asservi. On est esclave. C'est-à-dire des images que reprend la Bible. On est endetté, on n'est pas bien. La grâce libère la dette. Quand Jésus a dit « Je suis venu annoncer une année de grâce », il reprend l'enseignement biblique du jubilé, la 50e année. Il y avait des années sabbatiques, 7 x 7. Mais la 50e, c'était peut-être, on n'est pas sûr, mais peut-être une double année sabbatique chaque demi-siècle, qui proclamait entre autres la délivrance de tous les prisonniers, des esclaves, et la remise de toutes les dettes. Alléluia. Si. Vous savez qu'on peut tenir, et ça c'est pas bien, dans l'église, on peut faire sentir à l'autre qu'on a quelque chose contre lui. Bien, quand on fait sentir à l'autre qu'on a quelque chose contre lui, c'est exactement la même chose que le bonhomme qui a plein d'argent, et qui fait sentir au pauvre qui lui doit de l'argent, qu'il lui doit effectivement de l'argent. C'est un désastre psychologique. Ça démolit la personne. Personne dans l'Église ne doit se sentir pointé du doigt par une autre personne. Nous devons pardonner de tout notre cœur. Et vous savez ce que c'est que pardonner de tout notre cœur ? C'est effacer l'ardoise. C'est qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus de dette. On ne se doit plus rien. On ne ressent plus qu'il y a quelque chose. Parce qu'il n'y a plus rien. Alléluia. C'est le règne de la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Vous sentez qu'il y a encore quelque chose entre Dieu et vous ? Ben moi, je ne pense pas. Il vous fait grâce. Alléluia. Vivons cette grâce parmi nous. Je termine, je ne les lis pas parce que vous connaissez. En conclusion, je vous rappelle qu'il y a deux textes dans le Nouveau Testament qui dit « Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. » Amen. Pour vivre le règne de la grâce, il faut essayer d'être humble. Essayer, parce que je viens de vous dire une erreur là. On ne va pas réussir en essayant. Il faut que le Seigneur, dans son humilité, prenne plus de place dans notre vie. Alléluia. Et à chaque fois que dans nos vies, et je dis nous, je ne vise personne en particulier, mais nous tous, on a de l'orgueil dans nos vies et dans nos cœurs. Et quand cet orgueil est là, le robinet de la grâce diminue. Donc le robinet de la grâce pour nous et le robinet de la grâce aussi pour les autres. Mais Seigneur, délivre-nous de l'orgueil. Conduis-nous dans l'humilité de ton Fils pour vivre le règne abondant de la grâce qui surabondera toujours à nos péchés. Amen. Vous savez, ce matin, comme toujours, je prêche sincèrement, mais à chaque fois que peut-être vous pourriez vous dire « Ah Seigneur, c'est vrai ça !» Sachez toujours que tout ce qui est dit, ce n'est pas pour faire abonder le péché seulement, même si ça en fait partie, mais c'est surtout pour faire surabonder la grâce. Amen. Que Dieu nous aide. Le frère va nous conduire dans un chant. Merci.